Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Émilie Douel, bonjour.
Bonjour.
Le cochon d'Iwa basé à Poney, Saint-Auban.
Oui, c'est ça. Je me suis installée l'année dernière en élevage de cochons en plein air et en bio.
En plein air et en bio. Donc voilà, une agricultrice dans le secteur. Comment tu t'es installée?
J'ai été infirmière pendant 20 ans.
Ah,
voilà.
Ah oui, l'histoire donc, est... Ouais.
Je suis passée des patients aux cochons.
C'est quoi est-ce qu'on peut creuser? C'est un clash? Il y a un problème avec cette profession d'infirmière?
Non, j'adorais...
On m'est lié à tout ce qui se passe maintenant, tu vois, j'en profite.
Non, j'adorais cette profession. Super boulot, j'adorais le relationnel avec les patients. Après 20 ans de fonctionnement hospitalier, ça commence à être long, les heures sup, les histoires de fonctionnement hiérarchique, tout ça, ça commence à être compliqué pour moi et j'avais envie de prendre l'air aussi. Travailler à l'intérieur tout le temps, c'est parfois compliqué et on est dans un super coin, donc j'avais vraiment envie d'être dehors.
Donc tu te lances dans l'agriculture et ça, c'est pas non plus un petit geste?
Non, bah non, non. Après, j'ai mes parents qui sont agriculteurs depuis une vingtaine d'années. Voilà, qui sont arrivés et se sont installés dans le coin il y a 20 ans. Et j'ai un compagnon qui est agriculteur aussi. Donc
Bon, ça a aidé.
Ouais.
Donc, tu n'as pas eu besoin de passer le BPREA?
Si, quand même. Parce que
ça, c'est toujours drôle quand même de passer un BPREA alors qu'on est Bac plus 5 ou 6, ou dans ton cas, je ne sais pas.
Ouais, après, ce n'était pas une mauvaise chose de le passer parce que j'avais pas du tout de formation agricole et c'était super intéressant d'avoir des bases. Que ce soit au niveau des cultures et surtout au niveau de l'élevage. Et donc là, j'ai appris plein de choses. Et j'étais partie pour de l'élevage, mais je savais que je voulais des animaux. Après, je n'étais pas très sûre desquels. Et en fait, ça m'a aidée aussi à faire ce choix-là. Et j'ai rencontré des super gens pendant ma formation. Donc ça m'a confortée là-dedans.
Tout de suite, tu avais envie de travailler en bio?
Oui, oh ben la question ne se posait même pas en fait.
Pourquoi?
Parce que on est dans un coin qui est extraordinaire, donc ça aurait été du gâchis de faire du travail en conventionnel. Et puis ben, après, c'est des convictions personnelles aussi. Ça fait longtemps que je mange bio. Enfin voilà, on essaye d'être attentif à tout ce qui est
terrien. Tes parents, ton compagnon sont
tout
bio?
Tout le monde est en bio, ouais. Mon compagnon est en biodynamie aussi, donc... Voilà, ça fait un gros mix de bio et de toute façon la question se posait pas. Voilà, c'était une évidence de passer en bio.
Et puisqu'on parle de ton compagnon, on pourrait faire des co-exploitations, là c'est vraiment deux exploitations à part. Vous êtes chacun installé à titre individuel?
Ouais, on a deux exploitations complètement séparées, ce qui est pas plus mal. Sinon, je pense qu'on finirait par se taper dessus.
D'accord. Donc il met jamais les pieds dans les cochons et ni
c'est
toi
rare.
Dans sa. Oh, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs?
Si, il m'aide sur les gros travaux quand il y a besoin de gros engins, de choses comme ça. Lui, ça fait plus de 20 ans qu'il est installé, donc il file des coups de main. Et non, après on essaye de garder des parties assez séparées quand même. Ouais. Bon, après il est pas très fan de l'élevage. Et il a un peu peur de voir les cochons et de se dire qu'il va les manger après. Donc je crois que les vignes, ça lui va très bien.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça.
Bon, on en parlera après de ce rapport à l'animal. Donc un élevage, c'est pas non plus banal de cochons dans le secteur. Est-ce que du coup, tu as fait une étude de marché pour te dire, comment on en vient à faire du cochon finalement?
Comment on en vient à faire du cochon? Alors le choix, c'était l'élevage, c'était sûr et certain. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Après, ça a été un peu par élimination au départ, c'est-à-dire que brebis et chèvres, tout le monde en fait déjà dans le coin. Donc pour moi, c'était un secteur qui n'avait pas de débouchés.
Il faut avoir beaucoup de terre aussi, non?
Oui, il faut en avoir pas mal. Après, pour tout ce qui est foin, aliments, tout ça, ça devenait compliqué. Et passer sur du plus gros, c'était un peu inquiétant pour moi. Et en fait, le cochon, c'était un bon entre-deux. Et surtout, c'est un animal qui est vraiment sympa. Vraiment sympa à élever, super intelligent. Et je ne suis pas tombée amoureuse des cochons, mais pas loin, quoi. Je suis partie assez vite là-dessus. Et il y avait un côté qui était intéressant pour moi aussi, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait du cochon dans le coin.
Ce qui est toujours le cas.
Ce qui est toujours le cas. Je crois qu'on n'est que deux élevages dans le coin.
En bio,
Steve et moi. Ouais, et après, il y en a pas mal d'autres qui commencent à s'installer dans la Drôme, mais sur des petites exploitations, sur du plein air et une bonne philosophie.
Du coup, cette réflexion-là, tu l'as quand même eue aussi de l'éventuel circuit local de distribution.
Pareil, c'est un peu comme le bio, la question, elle ne se posait pas. En fait, si je faisais quelque chose, c'était quelque chose de petit et du coup, qui soit accessible pour les gens qui sont autour. Je n'ai pas forcément envie d'aller vendre de la viande très, très loin.
Alors, c'est petit comment ?
Je fais entre 50 et 60 cochons à l'année. En gros, ça fait un cochon par semaine et donc c'est petit. Par rapport à des exploitations qu'on peut voir en Bretagne, c'est même carrément ridicule. D'ailleurs, c'est des exploitations qui n'existent pas aux yeux de la PAC, de la MSA.
C'est pas vivable, bien sûr.
Si, c'est vivable. Si, c'est vivable. Il suffit de faire les choses de façon à ce que ça tienne la route, mais si.
Ouais, mais c'est ça l'argument, quoi, de dire c'est des choses qui n'existent. Enfin, je veux dire, la PAC, tous ces gens-là ne considèrent pas. Ou considère pas cette taille d'exploitation ?
Ah ben non, déjà c'est trop petit, ça parle pas à l'Union européenne ou je sais pas, enfin aux les réglementations en général. Et en plus du plein air, alors là c'est inexistant. Enfin il y a personne qui fait de cochon en plein air en France, quoi. Je crois qu'on n'est même pas 1%. Donc on peut pas rentrer dans des cases.
Ben, parlons des normes. Comment on fait du cochon en plein air ? Du coup, si vous êtes moins d'1%, c'est vous vous êtes fixé vous-même comment fallait faire ? Quelle taille on leur laisse ?
Non. Comment... Alors en bio, il y a quand même des normes à respecter. Il y a un cahier des charges. Donc il faut un certain espace pour tant de cochons. Donc
ça a quand même été étudié, ouais.
Ouais. Sur le cahier des charges bio, en tout cas, ça l'est. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des normes. En gros, c'est un peu le cahier des charges en bio qui me définit. Et après, on essaye de se regrouper entre agriculteurs, entre éleveurs de porcs locaux, du moins dans la Drôme, de monter des groupes justement pour échanger au niveau des pratiques, comme ça n'existe pas ailleurs. C'est super intéressant de pouvoir se dire, toi, comment tu travailles et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et échanger sur que ce soit l'installation, la commercialisation de la viande, le côté sanitaire. Du coup, il y a plein de choses à inventer, en fait.
Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Vous êtes dans l'invention permanente.
Ouais.
Alors, par exemple, ton bâtiment, comment il est ? Comment tu travailles ?
Alors, moi, je n'ai pas de bâtiment pour les cochons. Donc, je vais
en
faire.
En plein air total.
Ah oui, en plein air total.
Ils passent l'hiver dehors et tout.
Ils passent l'hiver dehors. Ils ont des petites cabanes et après, effectivement, ils sont dehors toute l'année. Et en fait, les cochons dehors, c'est une évidence. Un cochon dehors, c'est tous les cochons devraient être dehors, en fait. Ils ont besoin de passer leur journée le nez dans la terre. Et il y a plein de gens qui diront « Oh là là, ouais, mais alors en hiver, il fait froid, comment ils font pour survivre ?» En fait, ils ont une couenne qui est super épaisse, ils ont une grosse couche de gras et l'hiver, ça ne les gêne pas. Au contraire, je pense qu'ils sont même mieux l'hiver que l'été. Ils supportent beaucoup mieux le froid que la chaleur.
Ils font quoi, ces cochons ? Comparons l'intérêt à ne pas être dans un bâtiment. On imagine, on a vu plein d'images absolument affreuses. Ils sont même pas sur du sol, ils sont sur des grilles pour être sûr que le caca tombe en dessous. Du coup, ils se pètent les pattes. Enfin, des trucs horribles comme ça.
C'est ça.
Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il fait le cochon ? Pourquoi il est bien dehors ?
Et le cochon, il est bien dehors parce que le caractère principal du cochon, c'est que c'est un animal fouisseur. Donc, il a besoin de passer le groin dans la terre toute la journée. Il cherche, il fouille. C'est son occupation. C'est primordial pour eux de pouvoir faire ça.
Il fouille quoi ?
Il fouille la terre.
Ouais,
à la recherche de peu importe quoi.
Et ils le bouffent.
Et ils le bouffent éventuellement quand ils peuvent. Sinon, ils sortent des cailloux monstrueux. Ils sont capables de déterrer des arbres. Enfin, c'est... Mais c'est... Ça
pour
fait...
la blague.
Non, ça les occupe.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est le boulot de la journée. Quand ils ne dorment pas, ils fouillent. C'est juste génial. Mais moi, ils me retournent des cailloux qui sont juste énormes. En fait, j'imaginais pas ça, où ils m'ont déjà déraciné des arbres. C'est non, le boulot que ça peut faire, c'est sacrés engins de terrassement, les cochons, en fait. C'est ça. Et du coup, l'espace qu'ils peuvent avoir aussi, et le fait qu'ils soient dehors, du coup, ça change complètement. La qualité de la viande aussi. Et ça, c'est super important quand on vend un produit à la fin, de pouvoir se dire aussi que bah, c'est des cochons concourus. Donc, au niveau de la viande, il y a beaucoup plus de muscles que de gras. Ils ont pris le temps de grossir tranquillement. Il y a beaucoup moins de stress qu'en bâtiment. Comme ils ont de l'espace, ils ne se bouffent pas entre eux. Donc, il n'y a pas besoin de leur couper les queues ni de meuler les dents. Enfin, voilà, l'élevage en plein air, c'est super intéressant. Et au niveau sanitaire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup moins de concentration de maladies quand ils sont en extérieur, alors que quand ils sont en bâtiment, la concentration, elle fait que dès qu'il y en a un qui attrape quelque chose, tous les autres l'attrapent aussi. Donc, il faut vacciner, donner des antibiotiques en systématique, alors qu'en plein air, il n'y a jamais besoin de ça, en fait. Ils sont quasiment jamais malades.
En bâtiment, pour ne pas faire de bio ?
Si. Ouais. Si, en bâtiment, le bio, ça existe.
Ouais. Mais du coup, là, j'ai entendu un bémol, quand même. Justement, s'ils sont malades...
Alors, les cochons qui sont en bâtiment et en bio, ils ont obligatoirement un accès à l'extérieur. Voilà. Donc, il y a quand même... Et il y a aussi un espace par cochon qui est à respecter, même en bâtiment. Souvent, c'est des bâtiments qui sont paillés. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites pour que le label, il soit pas là juste pour dire on fait du bio. Enfin, il y a quand même un respect du bien-être de l'animal. Après, l'idéal, pour moi, c'est des cochons dehors, quoi. Libérer les cochons.
Bon, le cochon d'Iwa, il a fallu que tu fasses ta filière, hein, que tu te présentes, qu'on sache qu'il y avait du cochon. À qui tu le vends ?
Alors, j'en vends une bonne partie à la Carline.
Ouais.
Je fais aller marcher de
Donc, excuse-moi, tu les as démarchés ? Du coup, la Carline,
ouais.
Voilà, coucou, je vais faire du cochon, ça vous branche.
Dès l'installation, en fait, on en a discuté avec eux et ça tombait bien puisqu'ils avaient un éleveur qui était du coin qui arrêtait. Du coup, ça a permis de faire le relais et en fait, je suis arrivée au bon moment pour eux et du coup, pour moi aussi. C'était super intéressant. Et après, marché de 10, tous les samedis matins, quelques mercredis de temps en temps et en direct. Vente à la maison, sur des commandes que les gens me passent par téléphone. Et pour l'instant, ça suffit.
Ouais. J'avais l'impression qu'un cochon par semaine, finalement, c'était pas beaucoup. Tu avais l'air de le dire. Mais en fait, ça fait un paquet de viande. Si tu peux alimenter la Carline, le marché de 10 tous les samedis, plus des commandes par-ci, par-là.
Ouais. Alors après, ça reste quand même tout petit. Enfin, j'ai une demande qui augmente de plus en plus. Donc ça, c'est chouette pour moi. Après, de toute façon, même si on me demandait d'en faire plus, je dirais non. J'ai pas envie d'aller plus loin.
Tu vas pas prendre 100 cochons ?
Non. Non, non.
Plus grand champ.
Non, je pense pas. Après, ça pourrait se faire aussi. Hein. Enfin, je veux dire, sans cochon, c'est pas délirant non plus. Hein. Ça reste quand même une toute petite exploitation. Moi, je fais les naissances. Donc, j'ai des reproducteurs. Et faire des naissances, ça rajoute un peu de boulot et de stress, tout ça. Et en fait, j'ai pas particulièrement envie de grossir. Voilà.
Ah oui, donc en fait, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire que d'autres éleveurs pourraient prendre des cochons qui sont déjà, qui sont élevés ailleurs et juste les engrosser ?
Ouais, il y a dans la filière porcine, il y a beaucoup de gens qui font que des naissances et qui vendent les porcelets. Et tous ceux qui, enfin, une grosse partie de ceux qui engraissent achètent les porcelets à d'autres exploitants et les font engraisser et vont jusqu'à l'abattoir. Moi, je fais les naissances et après, je vais jusqu'à l'abattage et la transformation.
Donc, t'es toute seule ?
J'auto-renouvelle.
T'auto-renouvelle, voilà. On fait venir un cochon mâle d'ailleurs, donc du coup ?
Même pas. J'ai mon cochon mâle à la maison, c'est Polochon. Polochon le cochon et Polochon, super cochon, il est génial. Un gros papa cochon qui fait au moins 200 kilos et c'est une race particulière qui est assez rustique. Qui est bien adapté au plein air. Et les mamans, c'est des races qui sont plutôt ce qu'on dirait des races à viande, c'est des cochons roses, quoi. Donc le mélange des deux est vraiment intéressant parce que du coup, on garde vraiment la qualité de la viande, mais en même temps, on a aussi le côté rustique du père. Et pour l'extérieur, c'est chouette. Ça fait un bon mélange des deux.
Donc il y a même un travail là-dessus.
Oui, il y a du boulot là-dessus. Et les naissances, j'ai pas de regret d'avoir choisi de le faire. Ouais, c'est vraiment aller du début à la fin, c'est se dire, j'accompagne un cochon du moment où il naît jusqu'à ce qu'il est abattu. Il y a une satisfaction là-dedans. Quoi.
Et l'abattage, c'est toi qui le fais ?
L'abattage, c'est à l'abattoir de 10.
Oui, bien sûr.
C'est obligatoire quand on vend de la viande à du public. Ceci dit, ça me va très bien. Voilà. Non, mais pas dans le sens où j'ai pas envie de le faire, mais dans le sens où c'est bien d'avoir un outil qui soit chouette. L'abattoir de 10, c'est vraiment un super outil pour les éleveurs tenu par des éleveurs et géré par des éleveurs. Et il y a vraiment un côté respect de l'animal. C'est un petit abattoir, ça tourne qu'une demi-journée par semaine, donc il n'y a pas de travail à la chaîne. Et il y a un chouette regard sur les animaux. Voilà. Donc moi, l'abattoir de Die, il me va très bien et au contraire.
Et tu pourrais abattre ?
Je pourrais abattre. Ouais. Bah, ça fait partie du boulot d'éleveur. Je ne l'ai encore jamais fait.
Parce que justement, dans l'abattoir de 10, vous pouvez le faire vous, c'est ça ?
Ouais. Alors okay. Moi, je ne l'ai encore jamais fait. J'en fais pas partie de l'abattoir, mais ça m'est déjà arrivé pour un cochon qui était vraiment malade. Ça n'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Et de me dire, à un moment, il faut choisir entre un animal qui souffre ou un animal qu'on va tuer. Quoi. Et du coup, oui, ça se fait. Il faut le faire. Et l'élevage, c'est important de savoir le faire quand on a des animaux.
Bon, alors on y va, on questionne ce truc-là.
Bah oui, allons-y.
Tu les élèves, tu les fais naître, peut-être, tu le vois en tout cas. Il est là, tout mignon. Il finit, il fait 240 kilos. Ce rapport à la viande, à la mort, au fait de le faire tout le temps, systématiquement, toutes les semaines. Qu'est-ce que ça joue chez toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche aussi ?
Alors oui, ça me touche. En fait, quand on élève des animaux, d'autant plus quand on a fait les naissances, parce que du coup, on les a vus tout petits. Il y a quand même quelque chose d'attachant quand on voit un cochon qui est tout petit. Alors quand ils sont plus gros, c'est un peu moins mignon, donc on a un peu moins de remords à faire ça. Après, je sais qu'à chaque fois que j'en emmène un à l'abattoir, je lui dis merci.
Il voilà. Le sait, il le sent, il paraît que les animaux quand même peuvent s'en rendre compte.
Je pense qu'ils le sentent quand même. En tout cas, il y a toujours le stress du transport. Moi, ils ne bougent jamais du parc. Et juste le fait de les faire monter dans une bétaillère et de les transporter, il y a déjà un stress qui est occasionné par ça. Je ne suis pas très sûre. Après, le temps entre l'arrivée à l'abattoir et l'abattage, il est vraiment hyper court. Donc, je pense qu'il n'y a pas un grand moment de stress pour eux non plus. Après, c'est aussi la chance d'avoir l'abattoir de Die, quoi. C'est en général, il n'y a pas énormément d'attente, comme c'est un petit abattoir. Et après, je peux pas dire, je peux pas savoir s'ils le sentent vraiment ou pas. En tout cas, jusqu'au moment où ils montent dans la bétaillère, non, il n'y a pas de. Non, je pense qu'ils le sentent pas du tout comme ça. Moi, j'ai choisi ça en me disant, je savais qu'il y avait cette partie-là, il faut aller jusqu'au bout de la chose, quoi. Après, le côté mort, etc. Moi, j'étais infirmière pendant 20 ans, donc. Ça a un peu aidé à gérer ce genre de choses. J'ai vu des choses bien pires.
C'est vrai, j'avais oublié.
Donc, on ne fait pas d'euthanasie à l'hôpital, hein, mais le côté abattre un animal pour avoir la viande derrière, non, ça ne me pose pas de soucis. J'assume complètement.
Parce que tu es consommatrice de viande ?
Ben oui,
bien sûr.
Pas beaucoup, mais effectivement, j'aime bien la viande. Et donc, quand j'achète de la viande, elle est de qualité. Et donc, on en mange peu, mais de la bonne viande.
Et du cochon ?
Et du cochon, maintenant, on mange plus que ça. J'ai jamais mangé autant de cochon de ma vie que depuis l'année dernière.
Et la partie transformation, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être...
Alors, pour l'instant, je ne fais pas encore la transformation. Je la fais faire par quelqu'un qui fait ça très bien, d'ailleurs, qui est à Bourdeaux. Et dans mon projet d'installation, il y a un bâtiment qui ne va pas tarder à commencer. Donc, normalement, la construction devrait attaquer dans l'hiver. Et je serai autonome pour la transformation d'ici une bonne année, je pense.
Quand on parle de transformation, c'est la charcuterie, principalement.
C'est la charcuterie, la découpe de la viande. Après, il y a tout le côté préparation pour la commercialisation, la mise sous vide, ce genre de choses, ou en caissette. J'ai vraiment envie d'être autonome aussi là-dessus. Ça faisait partie du projet de départ et je veux vraiment garder cette ligne-là, quoi.
Ah oui, donc ça sortira tout de poney bientôt.
Ça sortira tout de poney bientôt. Ouais. Voilà, ouais. On va essayer.
Dans quelle mesure est-ce que la Carline, par exemple, t'aide ou d'autres structures ? Est-ce qu'il y a d'autres pour monter un projet comme ça, sachant qu'eux sont, par exemple, je parle de la Carline parce qu'ils sont intéressés à l'achat, mais...
Ouais. Au niveau aide, la première chose pour moi, ça a été le CFPPA, oui. Parce que du coup, là, j'ai tout découvert du début à la fin. Il y a eu, pour moi, en tout cas, un super accompagnement par les profs qui étaient là-bas et des bonnes suggestions, des choses à aller visiter auxquelles on n'aurait pas pensé. Après, il y a aussi tout ce petit réseau qu'on est en train de mettre en place avec les autres éleveurs de porc plein air. Et on se refile chacun des infos. Il y a toujours des trucs à aller découvrir, des visites chez d'autres exploitants, voir comment ça fonctionne. Et puis, la Carline, tout simplement, en prenant la viande, pour moi, c'était juste un super truc de départ, quoi.
Donc, si l'exploitation ne grossit pas plus, finalement, tu serais prêt à transmettre, à inviter tout un tas de gens à s'y mettre. Il faudrait combien là, d'éleveurs porcins comme toi pour que le territoire soit autonome
sur 10 ou
oh, le Diwa, le Diwa, allons-y, franchement.
Non, dans le Diwa, il y a encore de la place, hein, il y a encore des gens qui pourraient s'installer. Oh, oui, je pense que... Il n'y a pas énormément de concurrence, je veux dire, sur des exploitations qui sont aussi petites que ça, il pourrait y avoir encore de la place pour d'autres. Hein. Après, le porc plein air, ça commence à se développer pas mal. Dans la Drôme, il y a énormément d'exploitations en plein air, petites exploitations comme la mienne. Et je crois qu'on est le premier ou le deuxième département où il y a tant d'élevage en plein air. Donc ça pose pas mal de questions aux gens de la DDPP, ce genre de choses, parce que du coup, c'est un casse-tête pour eux au niveau des normes de sécurité, ce genre de choses. Et non, moi, j'encourage tous les gens qui font du cochon à le faire en plein air. Voilà. Ouais. C'est tellement plus simple.
Donc en plus de devoir inventer, vous êtes en train de chambouler jusque dans les chambres d'agriculture, là, qui ne savent pas quoi,
eh ben,
ce
oui,
que vous faites.
Oui.
Quoi.
En fait, si, dans la Drôme, ils sont quand même assez réactifs là-dessus. Je pense qu'ils ont l'habitude des hurluberlus qui s'installent. dans des situations bizarres où on va faire des tout petits trucs mais qui marchent, oh mince, en plus c'est en bio, oh là là, enfin, non, dans la Drôme je pense qu'ils commencent à avoir l'habitude de ce genre de trucs, donc il y a des gens qui sont formés aussi, mais il y a quand même pas mal de travail à faire sur comment on peut adapter des normes qui sont liées quasiment qu'au bâtiment à des gens qui sont en plein air, et là il y a beaucoup de boulot.
Genre la petite cabane du cochon a les mêmes normes que le gros bâtiment agricole, quoi.
Non, pas du tout.
Ah bon, alors, ça va.
C'est pas là-dessus, c'est plutôt par rapport aux risques sanitaires, en fait, de transmission, de maladies, d'animaux sauvages aux cochons. Donc sur le plein air, c'est vrai que c'est quand même un risque qui n'est pas négligeable. Hein,
par exemple, le
contact avec les sangliers, qui peuvent transmettre certaines maladies, et notamment en ce moment, c'est la grande mode de la peste porcine africaine. Et donc, il y a beaucoup de plans de biosécurité qui se mettent en place en France et qui ne sont pas du tout adaptés aux cochons en plein air.
C'est-à-dire que tu devrais, par exemple, mettre des clôtures de quelques mètres de haut pour éviter que les sangliers... Parce que comment ça, les sangliers viennent du coup au contact des cochons,
ouais.
se reproduisent avec eux, j'en sais rien.
Éventuellement, oui. En fait, les sangliers sont souvent attirés par les truies qui sont en chaleur. Donc, ils ont une forte envie de passer les clôtures. Et même en dehors de ça, juste le contact de groin à groin, par curiosité, en fait, ça peut arriver facilement. Donc l'idéal, quand on est en plein air, c'est quand même d'avoir des super clôtures. C'est bien. Donc moi, je suis assez contente d'avoir fait ce boulot-là l'année dernière en m'installant. C'était plutôt pas mal. Et ça veut dire fil électrique à l'intérieur, à l'extérieur, avec un grillage entre les deux fils électriques pour pas qu'il y ait de contact du tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en France, ils sont assez inquiets sur l'arrivée de la peste porcine africaine. Donc, ça déménage pas mal et il y a beaucoup de formations sur la sécurité. Et nous, on est en pleine réflexion sur comment on peut adapter l'élevage en plein air à des normes qui sont faites pour des gens qui sont en bâtiment, en fait. Mmh. Il y a des choses où, un sas sanitaire en plein air, comment c'est possible de mettre ses bottes dans un truc et de rentrer après sur un terrain qui est boueux, c'est complètement illogique. Enfin, il y a des choses où...
Il faudrait deux paires de bottes.
Oui, ou même trois ou quatre éventuellement, enfin, autant qu'ils veulent, mais non, il y a vraiment des choses qui sont compliquées. Comment on peut dératiser un parc à cochons en plein air? C'est pas possible. Forcément, il y a des animaux sauvages qui viendront. Il y a des oiseaux qui viennent se poser dans les parcs. Il y a des petits animaux qui arrivent à passer. Enfin, c'est du plein air, quoi. Enfin, ouais. On peut pas...
Les taupes.
Les
Zut.
Taupes, les vers de terre.
Oh là là.
Non, après, sur le sanglier, j'entends quand même. Hein. C'est vrai, après, pour un... Enfin, moi, pour le côté sanitaire de l'élevage, je me dis que c'est quand même important qu'il ne puisse pas y avoir de contact avec les sangliers. Bon, déjà, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des portées de cochons gliés, je ne saurais pas quoi en faire. Et en plus de ça, parce qu'effectivement, les sangliers transmettent pas mal de maladies aux cochons et je n'ai pas envie de me retrouver avec des épidémies ou ce genre de choses.
C'est pas beau le cochon glié ?
J'ai jamais essayé.
En fait, tu dis, c'est pas quoi en faire, mais si ça se trouve, c'est top, non ?
Oui, je pense que oui, ça ne doit pas être mauvais à manger. Non, le problème, c'est qu'après, on ne peut pas vendre la viande. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais de 12 ou 15 porcelets qui ressemblent à moitié à des sangliers? C'est pas possible, quoi. Donc, merci les copains, éventuellement, le jour où ça m'arrive. Mais non, du coup, je préfère pas. Vive les clôtures. Non, ouais.
J'imagine qu'il y a aussi une filière d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça mange, un cochon?
Alors, un cochon, ça mange un mélange de céréales et de légumineuses. Alors, moi, je fais pas l'aliment parce que ça demande beaucoup de terrain. C'est compliqué, ça fait un an que je suis installée, donc effectivement dans le projet je m'étais dit pourquoi pas d'ici 3-4 ans, une fois que tout le reste sera fait, que tout sera bien en place, envisager de faire l'aliment. Et je suis en réflexion là-dessus parce qu'en fait il y a des gens qui font ça très bien, Voilà, et qui font des mélanges qui sont vraiment adaptés à un engraissement facile, en tout cas, et qui sont vraiment calés là-dessus.
Et, en local ?
Non. Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est compliqué. En gros, il y a des coopératives qui achètent des céréales ou des légumineuses qui sont en bio, qui viennent de la Drôme, c'est transformé dans la Loire, et après, ça revient transformé de la Loire. Voilà. Bah oui, forcément. Mais les coopératives du coin ne veulent pas faire de la transfo parce qu'il n'y a pas assez d'élevage et que ça ne serait pas intéressant. Voilà. Donc, non, ouais, après, ça, pour moi, ça pourrait être sympa de faire ça, mais ça demande un gros boulot de faire l'aliment. Il faut un matériel bien spécifique, il faut du stockage aussi pour stocker les céréales, tout ça. Et en fait, pour l'instant, je n'ai pas tout ça, quoi. Donc pour moi, c'est facile d'acheter l'aliment. Après, il est certifié en bio sous forme de granulés. Les cochons adorent ça. Et effectivement, je pense que ça peut même m'arriver de temps en temps de leur donner, je ne sais pas, une courge ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils sont plus attirés par l'aliment qu'ils ont tous les jours que par des trucs que je pourrais leur donner à côté qui, moi, dans mon idée, leur auraient fait plaisir.
Oui, donc ce n'est même pas des cochons qui mangent ton compost, quoi.
Non, ce n'est pas des cochons qui mangent mon compost. Non.
Ils mangent que des granulés.
Si, la bourre.
Ça fait penser au chat. Le chat préfère les croquettes que le bout de gras. Hein.
Ah oui, non, mais c'est voilà, ça. Le cochon, c'est pareil. Non, quand ils me voient arriver avec les seaux de bouffe, ils sont tous au garde à vous devant la barrière, ils attendent qu'un truc, c'est que je leur donne, quoi. C'est non, les cochons, ça mange bien.
Bon, et à part Polo, les autres, ils n'ont pas de nom, du coup?
Si, j'ai quatre truies.
Pas ceux
quand même.
Que tu tues, quoi.
Non, ceux que je tue, je leur donne pas de nom, mais les quatre truies, si, j'ai Coquillette, Rosalie, Cap Noir et Manoir. Voilà, on fait simple. C'est pas moi qui choisis tous les noms des cochons. J'ai un enfant qui le fait aussi pas mal. Donc, ouais, non, et les truies, elles sont chouettes. J'essaye de les manipuler un maximum.
C'est-à-dire
beaucoup les toucher, les caresser. Ah oui. Quand elles vont pas tarder à mettre bas, j'essaye d'être vraiment présente. Enfin, voilà, de passer du temps, pas dire entre guillemets, discuter avec elles, quoi, mais leur faire savoir que je suis là. Et en fait, plus on les manipule, plus ils sont faciles à manipuler derrière. Donc, quand il y a des naissances, une truie qui a été beaucoup manipulée, elle se laissera approcher beaucoup plus facilement, alors que normalement, elle serait beaucoup sur la défensive avec les petits. Moi, les petits, je peux les approcher, il n'y a pas de souci. Les truies, je peux les approcher aussi quand elles ont mis bas et j'ai aucun problème avec ça, quoi. Ouais. Même pour leur faire des soins, c'est pas compliqué, en fait. Donc, la manipulation, c'est super important. Et en fait, les cochons ont une sacrée mémoire. Donc, ils se souviennent beaucoup des situations compliquées ou douloureuses ou stressantes pour eux. Donc, moins on les stresse et plus c'est facile de travailler avec eux. Voilà, les cochons, ça demande beaucoup de patience.
Par exemple, ils n'aiment pas être remalades ou ils savent que quand ils se sont fait ça, il va se passer ça et...
Ah oui. Ouais. Ça peut m'arriver de changer des truies de parc pour faire des rotations sur mes parcs. Et quand je change mes truies de parc, alors... Par exemple, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, elle a pris en grippe la bétaillère, elle ne veut pas monter dedans, alors c'est toute une galère. Et pourquoi, je ne sais pas, elle est montée une fois dedans, il ne s'est rien passé de plus, mais elle a dû l'enregistrer comme quelque chose qui était négatif. Et alors là, c'est compliqué, quoi. Ah, ils ont vraiment une mémoire d'enfer. Tous les gestes qui sont compliqués pour eux, en général, ça ne fait pas. Donc plus on les manipule, plus c'est facile après. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais moi, j'essaye. Par exemple, on a des prises de sang à leur faire une fois par an. C'est obligatoire, ça fait partie des trucs sanitaires. Et je sais que la prise de sang, on la fait à l'oreille. Donc, en gros, un mois avant la prise de sang, quand je leur donne à manger, je viens leur pincer l'oreille. Alors, au début, je caresse, après, je pince, après, je pique un peu. Et en fait, ils assimilent ça à quelque chose de positif, puisque c'est le moment où ils mangent. Et le jour où la véto, elle passe, c'est facile de faire une prise de sang. Ils ne bougent pas, quoi. Ils s'en fichent, ils mangent.
Pas mal.
Bah ouais. Faut y aller en douceur.
Elle m'a pas piqué l'oreille aujourd'hui. Ah si, c'est bon.
Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Il faut y aller en douceur. Bah ouais, il faut les habituer.
Et sont-ils de bons copains?
J'étais
obligé de la poser, mais parce que là, justement, tu vas jusque dans la manipulation et tout ça. Est-ce que ça peut être pensé comme un animal domesticable?
Ouais, oui.
Domestiqué.
Il y a pas mal de gens qui domestiquent.
Oui, il y en a, mais ouais. Justement là, dans une configuration d'élevage.
Alors, c'est compliqué. Moi, je peux le faire avec les truies ou avec le mâle, après, sur les cochons.
Oui, bien sûr. Non, mais je parle de cela.
Ouais, oui, effectivement. Après, les truies, moi, quand je suis dans le parc, elles me suivent, quoi. Je peux faire trois allers-retours. Elles vont être derrière moi avec la tripotée de porcelet derrière. J'ai la petite troupe derrière. C'est super sympa. Mais oui, effectivement, ça peut... Polochon, il le fait moins maintenant, mais quand il était petit, il revenait au pied. Donc on dit que les cochons, ils ont au moins l'équivalent de l'intelligence d'un chien et parfois même plus. Ah ouais. Ils peuvent être... c'est des animaux qui sont super intelligents. En plus, ils tentent des expériences. Quand ils voient que ça fonctionne, ils refont derrière. Quand ils ont vu que ça marchait, c'est...
C'est capable d'ouvrir un parc, ouais, par exemple.
Oui, ça peut. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ils n'ont toujours pas trouvé le truc. Après, l'électricité, ça les arrête bien, hein, quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc... L'élec, c'est ce qu'il y a de mieux pour arrêter un cochon. Mais j'avais entendu un éleveur qui racontait que son cochon mâle, il ne comprenait pas ce que ses femelles étaient prises alors qu'il n'était pas dans le même parc. Et en fait, un jour, il s'est posé pour regarder et le cochon était allé chercher un bout de bois, l'avait posé sur le fil. Le fil touchait par terre, donc le cochon passait par-dessus. Et hop, le soir, il revenait, il enlevait le bout de bois, l'air de rien, quoi. Il avait dû comprendre ça un jour, quand il posait le bout de bois ou le bout de bois était tombé par hasard. Il avait dit « Ah, bah, tiens, je peux passer ». Du coup, bah, après, bingo, quoi. Ah ouais, non.
Excellent.
Ah ouais, le cochon, ça apprend plein de trucs. Ouais, super intelligent.
Un peu de com maintenant. Alors, par exemple, on veut t'acheter un cochon, on t'appelle.
Oui.
T'as un site internet
J'ai un site internet.
Allez,
lecochondiwa.fr,
tout simplement.
Voilà.
Il y a quoi dessus? Des photos?
Il y a des photos de mes cochons. Et puis, il y a la liste des produits qu'on peut acheter.
Ok.
Ouais. Et du coup, sur le site, il y a aussi mon numéro de téléphone. Et puis, sur le marché de dit tous les samedis.
Voilà.
Ou à la Carline.
Émilie, merci.
Mais merci à toi.
On n'a rien oublié.
Non, je crois que c'est pas mal. On a fait un bon tour.
Bonne journée.
Super. Toi aussi.
Interview.
Okay. The bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.